Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Parlons Art, le podcast qui explore la culture sous toutes ses formes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode spécial Hors les murs. En effet, nous avons le privilège d'être au Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne, un lieu emblématique dédié à la découverte de l'art moderne et contemporain. Pour rendre cette immersion unique, nous avons la chance d'enregistrer cet épisode dans la bibliothèque du musée, la bibliothèque Jean Laude. Et pour enrichir cette exploration, nous avons le plaisir et le privilège d'être accompagnés de Zoé Marty, conservatrice du musée, qui a accepté de répondre aux questions de notre journaliste Alice. Dans cette interview, elle nous présente son métier, son parcours et nous éclaire sur les coulisses de l'institution, les enjeux de la conservation et les expositions qui font vibrer ce lieu dédié à la création contemporaine.
Zoé Marty, pour reprendre un peu votre parcours, vous avez étudié à l'École du Louvre à Paris. Vous avez fait un master puis un doctorat où vous avez soutenu votre thèse sur le genre et la violence, si je ne me trompe pas. Vous avez ensuite étudié à l'Institut National du Patrimoine et à l'Institut National des Études Territoriales. Récemment, vous avez notamment travaillé au Musée des Beaux-Arts de Rennes et au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Et vous êtes donc depuis 2022 à Saint-Étienne où vous êtes conservatrice du patrimoine. Vous avez donc consacré votre carrière à la conservation et la valorisation du patrimoine artistique. Et récemment, vous avez assuré le commissariat de l'exposition hors format, collection en chantier, un projet qui accompagne la réouverture du MAMC après plusieurs mois de travaux. Alors ma première question, ce sera comment justement vous faites le lien entre le travail de commissaire et de conservatrice et comment ces deux fonctions s'alimentent et dialoguent.
Alors, j'ai abandonné sauvagement ma thèse, donc je ne l'ai pas soutenue, mais sinon c'est juste. Le métier de commissaire et le métier de conservateur, ils sont liés de fait. Dans le métier de conservateur, il y a la composante de valorisation qui est essentielle. Donc certes, on prend soin des œuvres, on est chargé de pouvoir organiser leur restauration, leur mouvement, les acquisitions, mais effectivement tout ce qui va être de l'ordre de la conservation le plus longtemps possible. Mais cette conservation, elle n'a pas de sens si les œuvres ne sont pas visibles et si on n'organise pas leur présentation au public. Alors la spécificité de Saint-Étienne, c'est qu'on n'a pas de parcours permanent, donc les œuvres ne sont pas montrées tout le temps, au même moment, en même temps, de la même manière. Néanmoins, il y a un enjeu d'autant plus fort de pouvoir se dire que la collection est visible selon différents points de vue à différents moments. Donc c'est vrai que en tant que conservatrice et responsable des collections, c'est essentiel pour moi de me dire que ce travail de conservation, il a un sens et il se retrouve dans les salles et il est apprécié par les visiteurs et les visiteuses. C'est pour moi, c'est une connexion essentielle, sinon j'aurais l'impression de travailler un peu dans un couloir, un peu enfermé. Et là, l'idée, c'est pas du tout ça, c'est que la conservation, elle n'a qu'un seul objectif, le plus longtemps possible, pour le plus de personnes possible, pour vos enfants, si vous en avez. Enfin, voilà, c'est ça l'objectif.
Et justement, quelle place vous accordez à la scénographie, à l'expérience du visiteur? Comment ça se réfléchit, ça?
C'est une place importante parce que c'est en plus avec la question des hors-formats qui était le cœur de l'exposition. Il y avait des enjeux, c'est-à-dire qu'à des moments, on n'avait pas envie d'écraser les visiteurs non plus par la hauteur, mais on avait envie de les impressionner. Donc ça, c'est des enjeux de scénographie, de savoir à quelle hauteur d'accrochage on va les mettre, comment on va les confronter aussi, parce que c'est des pièces qui sont parfois très chargées, soit en couleur, soit en sens. Donc comment on crée du lien avec des pièces qui ne sont pas pensées par les mêmes personnes au même moment. Donc ça peut être des enjeux de couleur, ça peut être des enjeux de format, des enjeux de confrontation ou de contraste à l'inverse, d'avoir envie de faire un choc visuel. Je pense que le Jean Mot et le Hantaille, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un lien de sujet, mais j'avais envie aussi d'un choc un peu esthétique avec de la figuration, de l'art lyonnais très 19e, mais de l'autre côté, une toile de Hantaille qui prend le sujet religieux mais qui le réinvestit par la technique, dans une vision beaucoup plus contemporaine. Et à d'autres moments, j'avoue que j'aime bien que la Vierge regarde Mao. Enfin, c'est des choses, c'est des petits détails, mais qui sont essentiels, en tout cas au moment où on construit. Donc, je travaille avec le scénographe du musée, Nicolas Brun, qui lui nous aide. Et puis aussi, ça se fait aussi sur le moment avec les monteurs, avec les équipes de régie. Parfois on discute, on réfléchit, on se dit ah tiens le mur là ça serait intéressant de faire la continuité. Donc c'est aussi un travail collectif. C'est-à-dire que quand on, enfin, j'ai pas accroché toute seule, on était nombreux, nombreuses et voilà, on dialogue aussi pour obtenir le résultat qu'on a.
Et vous, personnellement, est-ce qu'il y a une œuvre ou une partie de l'exposition qui vous tient particulièrement à cœur et pourquoi ?
Mais c'est cette toile d'Elisabeth Mercier qui conclut le parcours, qui n'est pas hors format en tant que telle. C'est peut-être l'exception de l'exposition, mais qui m'est chère parce que quand j'ai exploré les collections la première fois sur les bases, c'est vrai qu'elle m'avait beaucoup marquée. Et un jour, je suis tombée face à face, enfin nez à nez avec elle en réserve. J'ai trouvé très belle et j'ai découvert qu'elle n'avait jamais été exposée depuis son entrée en collection en 1992. Donc c'est vrai que moi, les enjeux de genre sont importants pour moi, les enjeux de visibilité des créatrices. C'est aussi pour ça que j'ai postulé à Saint-Étienne, parce que quand j'avais vu l'interview de la directrice, elle en parlait, que c'est un enjeu important pour elle. Donc c'est quelque chose qu'on a concrétisé avec le projet scientifique et culturel ces derniers mois. Et terminé par Elisabeth Mercier, c'était pour moi une manière de me réapproprier un sujet qui était lié au chantier des collections, donc une exposition née de la contrainte, mais avec des choix esthétiques et scientifiques quand même. Mais là, j'avais une forme de rébellion. J'avais envie qu'Elisabeth Mercier soit dans cette exposition parce qu'elle ne savait même pas que son œuvre était au musée. Donc c'est... Un jour, je l'ai trouvée sur Instagram, je lui ai envoyé un message. Enfin, c'est devenu quelque chose un peu comme, je sais pas, une forme d'envie très forte et de faire plaisir à une dame aujourd'hui qui redécouvre la première toile qu'elle a jamais vendue dans un musée. Je trouvais ça voilà, une histoire qui me faisait plaisir.
Et donc, l'exposition en format est née de contraintes, mais pour d'autres expositions, par exemple, vous nous avez dit que la collection du musée est riche de 23 000 œuvres. Comment décider entre toutes ces œuvres, lesquelles doivent être mises en avant à un moment donné ?
Alors, c'est vraiment, pour les œuvres des collections, ça peut être un sujet. Par exemple, moi, la prochaine exposition sur laquelle je travaille, c'est sur le thème des traces. L'année dernière, on a fait l'acquisition d'une œuvre de Sarah Higgins, qui est une artiste américaine qui fait des frottages de trottoirs. C'est une artiste dont j'aime beaucoup le travail. On avait une autre œuvre d'elle dans la collection déjà. Et à partir de cette œuvre-là, j'ai pensé, tiens, qu'est-ce qui fait trace ? Ça peut être des frottages, ça peut être des estampages, des choses comme ça. Et tout d'un coup, il y a une liste d'œuvres qui se crée. Et puis, voilà, on se rend compte qu'il y a un sujet. Et donc, moi, par exemple, je l'ai présenté à la direction qui a accepté le projet et... J'essaie aujourd'hui de reconstruire un parcours autour de cette question de la trace. Donc ça va être l'archive, ça peut être marquer la terre aussi, avec pourquoi pas un enjeu aussi sur le territoire. Par exemple, les photos de Félix Thiollier qui montrent la terre ravagée par le travail des mines. Enfin voilà, c'est tout d'un coup, ça s'approfondit en fonction de la collection. C'est-à-dire que ça va être exhaustif. Je ne vais pas faire une définition des traces. Je fais avec ce que j'ai, ce qu'il y a dans le musée, et ça construit un propos.
Et... Est-ce que vous abordez aussi le rôle de la médiation culturelle dans le commissariat, par exemple pour attirer un public peut-être plus large, plus diversifié ? Est-ce que c'est important pour vous ?
Ah oui, bien sûr, on est des équipes, effectivement. Alors, il y a les équipes des collections, donc moi, je suis responsable des collections, mais on a des collègues, évidemment, à la médiation, qui sont nos partenaires et nos interlocuteurs et interlocutrices, surtout, sur ce chantier-là. Donc, souvent, il y a une médiatrice référente qui nous propose des choses, on dialogue. Et puis là, nous, il y avait une proposition claire de la part des collections qui était de dire on veut des restaurations visibles. Et à partir de ça, le service médiation va s'en emparer et propose aussi des choses à partir de ça. Donc, c'est un échange. Et puis... voilà, après, elles sont évidemment libres, mais l'idée, c'est que ce soit quand même tout le temps un échange et que les propositions à partir des œuvres se retranscrivent aussi dans les propositions vers les publics. Donc, ouais, voilà.
Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour avoir répondu à nos questions. C'était vraiment très intéressant, surtout la notion sur le genre, les femmes. Enfin, c'est des questions qu'on a un petit peu creusées. D'ailleurs, on a quelques questions en rapport à ça. Si ça vous dit d'y répondre, ce serait top.
Pas de souci, si bah, je peux.
Et bah, merci beaucoup. Et du coup, avec nous, on a Victorine qui est une spécialiste sur l'étude des genres et qui, du coup, va vous interroger sur toutes ces questions, surtout la place de la femme, finalement, parce que, comme on l'a vu, c'est des fois un peu compliqué de voir ces représentations-là, du coup, voilà.
Donc, pour commencer, moi j'avais une première question. On a vu que c'était très complexe d'inclure du coup des artistes féminines dans l'exposition à travers des pièces qui sont issues de temporalités différentes et notamment fin 19e siècle. Moi je voulais savoir quel a été ce choix du coup d'intégrer une artiste à la fin de l'exposition, pourquoi pas plusieurs, quels étaient les enjeux et les difficultés rencontrées?
Alors, il y en avait deux. Pas de difficulté, parce que, en fait, la difficulté, elle vient du corpus, très simplement. Et hors format, la question, c'était comment on fait pour exposer et pour ne pas transporter certaines œuvres. Et en réalité, dans les 140, j'avais pas de créatrice. J'avais Isabelle Champon-Métadier, et puis c'est presque tout. Donc, on a présenté celle-là. Après, j'en ai choisi une en plus. Mais bon, l'enjeu, c'était quand même... de ne pas déplacer ses œuvres. Donc, je ne pouvais pas remplir les murs d'autre chose. En réalité, j'avais une surface limitée. On travaille avec d'autres collègues qui font d'autres expositions. Donc, après, ce n'était pas forcément grave non plus, parce que Brand New, elle, est assez équilibrée et présente beaucoup de créatrices. La difficulté, elle est plus. On est sur une dynamique aujourd'hui qui est en faveur des créatrices. Donc, faire cette exposition, pour moi, qui suis quand même assez engagée de ce côté-là, c'était un peu dur à des moments. Mais bon, on s'est dit, on va tout simplement le raconter. Pourquoi elles ne sont pas là? Tout simplement parce que la question du format dans les années 80, et qui aime le cœur de l'exposition, c'est un enjeu aussi social. Pour faire des toiles pareilles, il faut un atelier. Pour faire des toiles pareilles, il faut une commande en plus de l'atelier. Parfois, il faut des assistants et des assistantes. Et de fait, on se retrouve face au sujet habituel d'une chambre à soi, un atelier à soi, qui est un peu plus complexe, on le sait, dans l'histoire, à obtenir quand on est une créatrice que quand on est un créateur. Donc ça, c'était des... Enfin, le format, en fait, il révèle la contrainte sociale, tout simplement. Et ça, c'est... On a décidé de le raconter. On parlait tout à l'heure du lien avec les médiatrices. Les médiatrices sont aussi emparées dans le dossier pédagogique. Donc autant discuter de cette chose-là et de cette contrainte-là, ouvertement, assumer finalement le biais, plutôt que de ne rien dire et faire comme si personne n'avait rien vu.
D'accord, merci. J'ai juste une dernière question. Comment pensez-vous que le public va recevoir ça en termes de médiation, le fait qu'il manque des artistes femmes au sein de l'exposition?
Alors, ça fait plusieurs mois que l'expo est ouverte. On a déjà passé la presse. J'ai fait un certain nombre de visites aussi. C'est assez... Il n'y a pas de résistance. Souvent, les têtes approuvent, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que oui, le constat n'est plus à faire, donc les gens sont plutôt d'accord. Et on sent qu'il y a plutôt une envie aussi que le musée présente d'autres choses. Enfin, moi, je ne vois pas beaucoup de résistance à cet endroit-là. En tout cas, chez nos visiteurs, l'esprit est plutôt ouvert. Je pense que notre programmation aussi, elle le dit. On a fait Marcel Kahn. Nos prochaines expositions, c'est Pierrette Bloch. On a aussi Charlotte Mott qui va être exposée. Donc, on a une dynamique qui va dans ce sens-là. Moi, je pense qu'il ne faut jamais mentir. C'est-à-dire que nos chiffres, c'est nos chiffres. On a, pour l'instant, la collection n'est pas représentative pour les créatrices. On fait tout notre possible pour qu'elle le soit. Par exemple, en 2023, 60% de notre budget d'acquisition a été dédié à des créatrices, vivantes ou décédées. Donc, on voit aussi que l'énergie, on essaie de la mettre dedans. C'est des choses en cours. On ne va pas faire passer 4% en 20%. Malheureusement, c'est difficile. Par contre, on peut se poser la question, comment on fait, si ce n'est pas par le nombre, puisqu'on n'a pas les chiffres qui le permettent, c'est comment on les présente. C'est-à-dire que moi, quand je travaille sur Trace actuellement, au début, j'étais un peu utopiste. Je me disais, je vais faire un 50-50, ça va être génial, je vais y arriver. Pas facile. En fait, je me dis, je ne vais pas arriver à faire 50-50. Par contre, ce que je vais faire, c'est que la place centrale, les pièces les plus importantes dans certaines salles vont créer une forme de rectification. C'est-à-dire que la pièce centrale, ça sera le Jan Asterbach ou ça sera le Gloria Friedman. Et autour, il y aura autre chose. Mais la pièce, l'œuvre qui va être le cœur de l'espace, et c'est là qu'on revient à la scénographie, ça sera la créatrice. Et à un autre moment, ça sera un créateur. Mais c'est l'idée que si je ne peux pas faire l'équilibre par le nombre d'œuvres ou par le nombre d'artistes, je peux le créer par la manière dont la salle est présentée. En tout cas, pour l'instant, c'est la piste que j'explore. Je ne sais pas si ça va marcher. Il à revenir en 2026. Mais voilà, c'est une manière.
Ok. Écoutez, je vous remercie pour vos réponses à mes questions.
Avec plaisir.
Bah, merci beaucoup pour votre présence avec nous. Et puis, c'était vraiment très enrichissant de pouvoir discuter avec vous. Vraiment, merci beaucoup.
Avec plaisir. Merci à vous.
Chers auditeurs, on se retrouve après avoir quitté Zoé Marty. Donc maintenant, on va se plonger un peu plus dans l'exposition hors format du musée où nous allons justement rejoindre un visiteur, donc Marius, qui va nous décrire un tableau qu'il a choisi et nous dire un petit peu ce que ça évoque dans son imaginaire personnel.
Eh bien déjà, bonjour.
Bonjour.
Merci pour l'invitation. Du coup, je viens de visiter une partie du musée. Et je suis tombé sur l'œuvre de Barthélemy Togo, Natural Song, de 2014. Alors j'aimerais beaucoup vous parler du choix auquel j'ai été confronté en observant ce tableau. Parce que du coup, ce choix, il vient d'un chemin de pensée. Parce que du coup, j'ai une petite technique quand je vais au musée. Je préfère ne pas lire le cartel. Alors je pense que c'est assez répandu comme technique, parce que les artistes le font assez régulièrement. Mais du coup, j'aimerais beaucoup vous parler de ce que j'ai vu et observer dans ce tableau. Alors personnellement, ma technique, elle se base sur la réflexion de la lecture iconographique de Panofsky. Donc pour résumer en gros guillemets, il y a trois niveaux de lecture. Le premier, c'est ce qu'on voit au premier abord, sans soucier de la symbolique. Par exemple, je vois une tache rouge et une tache verte. Ensuite, le deuxième niveau, c'est la compréhension de cette symbolique. Donc par exemple, le rouge, ça veut dire telle chose. Le vert, ça veut dire telle chose. Et le troisième, c'est la compréhension du contenu. Donc, par exemple, le rouge avec le vert, ça veut dire une chose, voilà, et c'est le contenu. Alors, c'est résumé très succinctement, mais vous avez l'idée. Bon, maintenant, passons au tableau. Vu qu'on est en podcast, ce sera à travers mon regard que vous verrez l'œuvre. Pour rappel, je n'ai pas encore lu le cartel. Alors, tout d'abord, on a un fond blanc, avec, dans le coin supérieur droit, un crocodile vert, mais un vert qui par endroits, est délavé. Ça semble être de l'encre ou de l'aquarelle. Donc plus de matière à certains endroits. Ce crocodile est relié par la queue aux fesses d'une silhouette humaine, qui elle est assise dans le coin inférieur gauche. Leur lien prend la couleur rouge délavée, tandis que cette silhouette humaine prend la même teinte que le crocodile. Tous les deux sont rivés de clous. Et il faut savoir quelque chose, c'est que cette silhouette humaine est deux fois plus grosse que le crocodile, et qui lui sort des branchages de la bouche. Certaines branches se confondent au lien entre les deux protagonistes, puis une dernière branche s'élève au-dessus de la tête de la silhouette et l'on y observe trois feuilles. Voilà pour ce que j'y observe. Après, sans le titre, je ne peux faire que marcher mon imagination et mes connaissances. Et c'est vrai que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est les figurations de l'arbre de l'île Wak Wak, un arbre parlant avec des têtes humaines et parfois animales, qui étaient représentées sur des miniatures persanes. Alors du coup, ces miniatures avaient pour but, dans un livre, d'illustrer les écrits, tandis qu'exposées dans un musée, l'importance de cette figuration, elle n'est plus la même. L'attention n'est plus portée sur la qualité illustrative, mais sur sa qualité décorative et fabuleuse. Ce chemin de pensée se fait bien évidemment indépendamment du cartel et du titre. Le titre étant Natural Song, cela donne une autre interprétation à travers le regard de l'artiste. On peut penser que cette silhouette humaine et ce crocodile dansent ensemble, par exemple. Néanmoins, le cartel n'est pas le seul modificateur de sens. Il y a aussi l'environnement dans lequel le tableau est exposé. Mais pour revenir sur le sujet principal, donc par rapport au choix auquel j'ai été confronté et auquel on est toutes et tous confrontés, je pense, c'est quelle interprétation choisir entre celle de l'artiste ou la mienne. Et ça, je pense que... D'un point de vue personnel, je pense que ça, c'est à vous de répondre à cette question. Mais je trouve que le fait de réfléchir par soi-même, en tout cas les premières fois quand on arrive devant une œuvre, je trouve que c'est toujours intéressant parce que parfois, on se découvre.
Bien sûr. Puis c'est un peu tout l'enjeu finalement du musée. Opposer son interprétation personnelle à l'interprétation qu'on en donne via le cartel.
Exactement. Enfin, voilà. Merci en tout cas.
J'ai trouvé ça très intéressant, surtout quand tu as rappelé les différentes interprétations de la peinture, je trouve que c'est intéressant de le rappeler parce que c'est vrai que finalement, des fois, on le fait automatiquement sans même connaître ces trois interprétations. Oui. Automatiquement, on va aller vers directement la troisième interprétation sans même passer par les deux premières. Mmh. Et du coup, je trouve ça intéressant de le rappeler. Merci en tout cas, merci beaucoup Marius. C'est et vraiment un choix très intéressant.
Et ben, merci à vous aussi.
Merci.
Au revoir.
Chers auditeurs, on se retrouve maintenant avec Victorine, donc chercheuse et spécialiste de l'étude des genres, donc qui va venir un peu nous parler de ses recherches et en quoi ça entre en résonance avec ce dont on a parlé avec Zoé Marty. Donc rebonjour Victorine.
Bonjour Apolline. Dernièrement, je me suis basée sur les recherches de la chercheuse américaine et historienne de l'art Linda Nolchin. Mmh. Je me suis intéressée à ces deux écrits, principalement « Femmes, art et pouvoir » datant de 1993, puis « Les politiques de la vision, art et société politique au XIXe siècle » qui lui date de 1995. Et en fait, donc, pour présenter brièvement Linda Nolchin, c'est une théoricienne féministe, historienne de l'art et professeure universitaire qui est connue pour avoir abordé la question de la place des femmes artistes au sein de l'art contemporain occidental. Et donc, dans une interview que j'ai trouvée sur Open Journal Edition, elle répond à la journaliste Anne Lafont dans une interview donnée en 2017. Elle raconte comment la peinture réaliste, dont elle est aussi également la spécialiste, notamment parce qu'elle a étudié à Paris, elle est spécialiste de Gustave Courbet. Comment elle amène, du coup, l'a amenée à se questionner sur le féminisme en France. Et elle dit cette phrase intéressante, du coup, dans cette interview, où elle dit que l'approche féministe concerne l'humanité, non seulement, pas seulement les femmes, mais dans les deux cas, j'ai choisi de remettre en cause les normes telles qu'elles étaient prises pour acquis, d'inverser finalement la question pour qu'elle entre dans le champ général de l'histoire de l'art. Donc en fait, c'est aussi ça sa méthodologie. C'est de, au lieu de suivre les normes théoriques influencées par les grands auteurs et les penseurs philosophes, elle pose des questions pour avoir un déroulement et un discours beaucoup plus critique dans ses ouvrages. Donc en ce moment, je suis très active et je me penche là-dessus pour mes recherches personnelles.
D'accord, bah c'est super intéressant. Puis voilà, ça... C'est bien en résonance avec ce dont nous a parlé Zoé Marty, donc c'est vraiment super. Merci pour ces quelques mots. Et maintenant, du coup, on va retrouver notre journaliste Céline, donc qui va nous parler de la médiation des publics au Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne. Donc, elle nous a fait tout un article avec beaucoup de recherches. Bonjour Céline.
Bonjour Apolline. Merci à toi de m'accueillir aujourd'hui.
Eh ben, merci à toi d'être venue. Donc, tu vas nous parler de la médiation artistique au jeune public et surtout de la fabrique du sens au MAMC. Donc, je t'en prie, dis-nous tout.
Alors, à l'heure où les budgets prévus pour la culture sont saturés, où l'offre culturelle pour les jeunes est la première à pâtir du contexte politique actuel, où le pass culture a récemment été suspendu sur décision du gouvernement, peut-on encore espérer enrichir les plus jeunes d'art ou bien doit-on remettre en cause l'utilité de l'enrichissement artistique dans l'éducation des jeunes ? L'éducation se limite-t-elle aux enseignements dits classiques, tels que les mathématiques, le français et les sciences ? Pour répondre à cette question, je suis allée faire une enquête au Musée d'art moderne et contemporain et m'intéresser un peu à ce qu'ils proposaient pour la médiation artistique pour les plus jeunes. Et si les professionnels du secteur culturel manifestent actuellement, le Musée d'art contemporain fait partie de ces structures culturelles qui croient en la médiation artistique pour les plus jeunes et osent dire « debout pour la culture ». La Fabrique du Sens regroupe sous ce titre toute l'offre de médiation culturelle du Musée d'art moderne et contemporain. La notion de fabrique prend un sens tout particulier dans la région stéphanoise, puisque c'est sous ce vocable que va s'organiser la mise en commun de tous les talents et de tous les savoir-faire autour de la rubannerie au tournant du XIXe siècle. Mmh. Le musée propose tout un ensemble de visites et d'ateliers pour accompagner tous les élèves dans la découverte de l'art, avec une programmation aussi enrichissante que variée.
Okay.
Nous avons par exemple des visites commentées, adaptées à tous les niveaux de classe, sous le nom de « Sens de visite ». Pour éveiller la curiosité des élèves, mettre en lumière les missions du musée, ses collections, son architecture, son histoire, en parcourant les divers espaces ouverts au public. Il est également possible de créer une visite sur mesure où les élèves composent leur visite de l'exposition, de la collection et même d'aborder l'exposition de la collection du musée à travers une question de société. Des visites qui permettent donc d'explorer dans tous les sens le musée et de lui donner un sens en aiguisant son sens critique et de ne pas perdre le sens commun. Des ateliers de pratique autour de la découverte d'un médium à chaque semestre différent pour une durée de 2 heures, adaptés à chaque niveau de classe, sont également disponibles. La fabrique de l'image, un nom aussi poétique que créatif, annonce jusqu'au 11 avril 2025 une exploration pratique du théâtre d'ombre et de la photographie à travers la prise de vue, le montage, la transparence et même la découverte de la technique, telle que le cyanotype. D'autres types de médiation pour le jeune public sont encore disponibles. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site internet du Musée d'art moderne et contemporain. Une exploration pluridisciplinaire, adaptable et amusante qui prouve que la médiation artistique pour le jeune public est une tâche infinie et que les établissements culturels ont une utilité bien plus pédagogique qu'il n'y paraît au premier abord.
Eh ben, merci beaucoup Céline pour cet article super, vraiment super intéressant, très complet et très recherché. On ira tous au musée pour voir ces médiations avec nos enfants.
Merci à toi.
Merci. Et on retrouve maintenant une deuxième visiteuse qui va nous parler un petit peu de son expérience au musée, puisque bien sûr, c'est les premiers touchés, donc c'est bien de demander un petit peu l'avis au public. Bonjour.
Bonjour Pauline.
Ça va ?
Super bien.
Dis-nous alors un petit peu ton expérience au musée, comment ça s'est passé ?
Je pourrais dire que ces expositions offrent une riche palette d'œuvres et de thématiques permettant aux visiteurs de s'immerger dans des univers artistiques variés et de nourrir leurs réflexions sur la modernité contemporaine. Aussi, les rénovations des espaces et des œuvres apportent pour moi une nouvelle vie au tableau permettant de les redécouvrir pleinement, peu importe leur époque. Et j'ai un coup de cœur sur... Sur Fladrine 1994 de Frank Stella, acrylique sur toile, qui joue un peu sur notre regard. Mm-hmm. En fait, bien que tout soit plat, on a l'impression que de forme en relief grâce au découpage et collage ingénieux de l'artiste. En fait, cette œuvre issue d'une série qui imagine des paysages irréels m'a véritablement transporté dans un voyage visuel et émotionnel, en fait, avec les couleurs, l'agencement. Voilà un peu. C'était tout à fait bien.
Bien sûr, je suis assez d'accord avec toi. Ce tableau, il est vraiment incroyable et vraiment, il nous fait voyager. Hein. C'est vraiment une magnifique pièce.
Ouais.
En tout cas, merci beaucoup à toi pour avoir partagé ton expérience.
À bientôt.
À bientôt. Bien, chers auditeurs, c'est déjà la fin de cet épisode. Alors, un grand merci à tous nos intervenants pour leur précieux partage. À vous aussi, chers auditeuristes, pour avoir suivi cet épisode spécial Hors les murs de Parlons Art. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à partager cet épisode autour de vous et bien sûr à pousser la porte du musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne pour découvrir ses œuvres. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la culture. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à explorer l'art sous toutes ses formes. À très vite.